Moi, je suis psychologue, je travaille donc au Centre médical Marmottan, qui est un hôpital spécialisé, dédié, du moins initialement, historiquement, parce qu'il a ouvert cet hôpital, ses portes, en 1971. Et donc, il était initialement, historiquement, dédié aux personnes toxicomanes. Et puis, depuis environ une bonne dizaine d'années, nous nous sommes ouverts, nous avons commencé à accueillir des gens qui présentaient des addictions qu'on appelle les addictions sans drogue. Et c'est d'abord parce que le chef de service actuel, le docteur Marc Valeur, recevait lui-même des joueurs d'argent. Vous savez peut-être que les jeux d'argent tels que vous les connaissez, peut-être le loto, le rapido, les cartes à gratter, le poker, les paris sportifs, etc., peuvent eux aussi induire des pathologies, c'est-à-dire des maladies un peu particulières, et c'est de ça dont je suis venue vous parler aujourd'hui, de l'addiction, qui est une pathologie particulière, on va dire, peuvent aussi induire un certain nombre d'addictions, et c'est parce qu'on recevait des joueurs d'argent qu'au début des années 2000, on a commencé à recevoir des appels provenant de joueurs qui nous disaient, ben voilà, moi je suis joueur aussi, j'essaye de sortir de mon jeu, mais je m'en sens prisonnier, je ne parviens pas à me sortir de mon jeu, mais mon jeu, c'est pas un jeu d'argent et de hasard, c'est un jeu vidéo. Est-ce que vous acceptez de me recevoir et de m'écouter, et éventuellement, si vous le pouvez, de m'aider? Et c'est un peu comme ça qu'on a commencé à recevoir des joueurs de jeux vidéo enfin à Marmottan, donc dans ce centre médical initialement dédié aux personnes toxicomanes. Voilà, donc j'ai un peu formulé comme ça l'intervention, jeux vidéo, internet, la question de l'addiction, parce qu'il me semble qu'internet et les jeux vidéo et les écrans en général soulèvent bien d'autres questions que celles de l'addiction. Mais l'addiction, c'est hyper tendance, c'est très mode, tout le monde a envie de parler d'addiction. On parle même aujourd'hui de société addictive, on emploie ce terme comme si la société dans laquelle on grandissait aujourd'hui, elle avait des particularités et elle invitait les individus de plus en plus à développer ce qu'on appelle des relations addictives. Alors, je vais essayer d'éclairer mon propos, notamment sur cette question de l'addiction, mais je vais le faire surtout autour d'Internet. Et on va commencer par Internet, cet outil... Alors la technologie, hein, faut que ça marche. Forcément, quoi, sinon si ça marche pas. Bon. Non mais vous en faites pas, le premier mot là qui a marqué sur le PowerPoint, c'est Internet. Donc comme ça, ça va, les choses sont claires. C'est que ça marche beaucoup moins. Bon, bah, on va essayer de se passer de cet écran et d'avancer un petit peu sur cette thématique. Alors Internet, ce que ça nous permet avant tout, cette nouvelle technologie, comme on l'appelle, de l'information et de la communication, c'est justement de communiquer les uns avec les autres différemment que précédemment dans l'histoire. Et qu'est-ce que change ou qu'est-ce que permet Internet, qu'est-ce qu'a comme caractéristique Internet? Moi, j'en relève trois des caractéristiques d'Internet. L'interactivité, donc le fait que l'on soit actif face à cet écran. Et cette première caractéristique, l'interactivité, ça distingue bien la télévision, qui est l'écran le plus connu et qui était déjà présent dans les foyers depuis, qui est déjà présent dans les foyers depuis fort longtemps, devant lequel, le plus souvent, on a une position passive devant la télévision. C'est plutôt j'ingurgite, j'absorbe les images ou le contenu que me déverse la télévision. Alors qu'avec Internet, je suis dans une autre posture, puisque j'y suis actif. Généralement, on me demande d'y participer, on me demande mon avis, on m'incite même à participer. Et d'ailleurs, sans moi, Internet, ça perd quand même vachement son intérêt. Hein. Sans cette participation active de l'internaute, ça perd de l'intérêt. Le point commun entre la télévision et Internet, c'est le fait qu'on communique par un écran, et donc par l'image. Et les images, ça fait pas si longtemps que ça qu'elles sont présentes dans nos sociétés. En réalité, les écrans qui permettent la diffusion de ces images, ils ont commencé à émerger assez récemment. Le premier écran, c'est l'écran du cinéma. Et le premier écran, il est apparu donc début du XXe siècle. Donc ça fait pas si longtemps que ça qu'on est dans une société des images, une société de l'écran. Et je crois qu'on n'a pas complètement, évidemment, encore absorbé cette nouveauté. Ça, pour vous, peut-être, ça vous paraît évident, vous êtes nés avec Internet, vous êtes les natifs d'Internet. Moi, je suis née avant Internet, j'ai pas la même appréhension, et on est nés dans une société, vous et moi, de l'image, sans trop se poser de questions. Et pourtant, ces images, elles ont un impact très fort sur notre esprit. Aujourd'hui, on sait que les images impactent plus même que les mots. D'ailleurs, il y avait un célèbre hebdomadaire, un journal, qui titrait, enfin, qui avait comme slogan « Le poids des mots, le choc des photos ». Ils ont changé de slogan, mais cette idée est restée. Donc le point commun, en tous les cas, c'est cette question de l'image. Donc Internet permet de communiquer avec les images. Deuxième caractéristique majeure d'Internet, c'est l'ubiquité. Peut-être que vous avez déjà entendu ce terme. L'ubiquité, c'est la faculté d'être dans deux lieux à la fois. Alors ça n'est qu'une illusion, entre guillemets, puisque en réalité, quand je suis derrière mon écran d'ordinateur, eh ben, je suis bien dans la même pièce. Mais j'ai la sensation, j'ai l'illusion d'être directement en contact avec d'autres personnes, ce qui est le cas. C'est-à-dire qu'à l'aide de cette interface qui est l'écran, eh ben, à la fois je suis en contact avec des gens qui sont au loin, et en même temps, si je me retourne derrière mon siège, généralement d'ordinateur, eh bien il y a ma famille, il y a mes parents, il y a mes frères et sœurs qui sont derrière moi. Donc à la fois je suis dans ma chambre, par exemple, et à la fois je suis connectée à plein d'autres, mettons, internautes, et je me trouve en plein de lieux différents, en quelque sorte. Et ça, c'est aussi une nouveauté. Avant, dans l'histoire, aucun outil, aucune technologie ne nous avait donné cette faculté d'avoir la sensation de se trouver dans deux lieux à la fois. La troisième, selon moi, caractéristique d'Internet, c'est l'instantanéité. Alors ça, je suis sûre que vous connaissez très bien ce terme. L'instantanéité, c'est la tendance générale de la société. C'est tout, tout de suite, maintenant. Avec Internet, on a justement cette capacité-là. C'est-à-dire, j'envoie un mail, je sais que dans l'instant, dans les quelques secondes qui suivent, la personne à qui j'envoie ce mail va pouvoir le recevoir, va pouvoir le consulter et sans attendre. Et même que cette caractéristique-là, elle me met moi-même dans un état un peu particulier, c'est que moi j'envoie le mail à 12h05 et j'attends la réponse à 12h15. C'est-à-dire que le fait que ça soit aussi rapide cette technologie, elle a tendance aussi à déteindre sur moi et moi j'aurais tendance quand même à m'attendre à avoir des nouvelles beaucoup plus rapidement derrière. Je suis sûre que vous avez déjà tous eu cette sensation-là. J'envoie un SMS et j'attends, parce que le SMS fonctionne un petit peu comme le mail, hein, somme toute. J'envoie un SMS et j'attendrai la réponse tout de suite. Alors que peut-être la personne à qui j'envoie ce SMS n'est pas devant son téléphone portable, n'est pas en mesure de lire le SMS et elle va me répondre plus tard. Globalement, cette dernière caractéristique, cette instantanéité, donc cette caractéristique qui est assez majeure dans notre société actuellement, voilà, ce qu'elle stigmatise ou ce qu'elle manifeste, c'est cette volonté de rapidité. On a de plus en plus envie d'être rapide et grâce à ce médium qui est Internet, eh ben, on est réellement de plus en plus rapide dans notre communication. Et cet outil de communication, Internet, en tous les cas, va donc modifier nos rapports entre les uns et les autres. Et je pense qu'il y a un endroit, un lieu où on voit se modifier de manière très prégnante, très importante, très massive ces relations. Là où on voit les modifications, c'est dans les réseaux sociaux, justement, qui vont condenser, concentrer toutes les caractéristiques d'Internet. Les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, etc. Enfin, toutes les plateformes qui aujourd'hui vous permettent d'être connecté avec beaucoup d'autres personnes et qui vous permettent d'échanger. Alors, ça peut être soit sur sa vie personnelle, soit sur des grandes thématiques, que ça soit sur le monde, sur la politique, sur l'écologie, sur tout un tas de thématiques qui peuvent vous intéresser. Et donc, ce sont ces plateformes où on va beaucoup échanger. Enfin, je ne vous apprends rien. Vous connaissez sans doute mieux que moi ces réseaux sociaux pour les pratiquer de manière beaucoup plus régulière que moi, par exemple. J'ai beaucoup de mal, moi, à trouver l'intérêt d'un Facebook, ce que je pense que beaucoup d'entre vous ont su trouver. Alors, l'intérêt... Enfin... Internet, c'est à la fois ces trois caractéristiques donc de communication exceptionnelles, comme je l'ai cité tout à l'heure, donc l'interactivité, l'ubiquité et l'instantanéité, et c'est ce qu'on retrouve surtout dans les réseaux sociaux, donc, et en même temps c'est une promesse, Internet. La promesse d'Internet, c'est l'illimité. Vous avez le droit de discuter avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la Terre et la question des kilomètres ne pose pas de problème. Bonjour. Vous pouvez échanger donc avec des gens qui n'ont pas la même langue, qui n'ont pas la même langue, si du moins vous arrivez à trouver des codes de communication. Mais il n'y a plus de limite non plus dans le temps. Ouais. On va peut-être réussir à mettre en route le PowerPoint. Donc ce qu'offre aussi Internet, en tous les cas, sa promesse, c'est l'illimité. Et ça, c'est très attractif, hein, comme il dit, idée. Parce qu'à l'idée d'illimité, on s'associe facilement l'idée de liberté. Je peux tout faire sur Internet. Je peux tout voir, d'ailleurs, sur Internet. Mais est-ce que tout est vrai? Est-ce que tout est bon pour moi sur Internet? Internet, c'est vraiment toutes ces possibilités-là, mais est-ce que tout ce qui est dit sur Internet, par exemple, est vrai? Est-ce que tout ce que vous notez, vous, sur Internet, est vrai? Oh. Oui? Oui? Non? Oui, tout ce que vous notez sur Internet est vrai? Oui. Quelle belle naïveté. C'est beau. Et vous pensez que tout ce que vous lisez sur Internet est vrai? Ah, voilà, formidable. Merci beaucoup. Et vous pensez que donc tout ce qui est noté sur Internet est vrai? Bon. Donc là, ça reprend juste hein, ce que j'ai dit jusqu'alors. Ce dont on s'est rendu compte en fait avec Internet, c'est qu'évidemment on y trouvait un peu tout et n'importe quoi. Alors on peut trouver le meilleur hein, sur Internet et c'est une source d'information formidable, quoi. Évidemment. Mais aussi, on peut trouver le moins bon, de vastes conneries, des choses extrêmement fausses sur Internet et qui vont pouvoir se perpétuer parce que, justement, Internet, ça va toucher les gens individuellement, pas en groupe. Je suis tout seul dans ma chambre et individuellement, je reçois une information. Je vais vous donner un exemple assez typique. Vous connaissez peut-être la question de l'anorexie. Enfin, c'est une question... Le trouble de l'anorexie. Donc le trouble de l'anorexie, il est notamment lié à toute cette mode, toute cette tendance des mannequins qui sont extrêmement minces, voire maigres, voire décharnés. Or, il existe maintenant sur Internet un site dont le nom m'échappe là tout de suite, les pro-ana. Vous connaissez peut-être déjà ce... Alors les pro-ana, ce sont des regroupements de jeunes femmes essentiellement parce que les questions malheureusement d'addiction ou en tous les cas de problèmes alimentaires touchent plus les filles que les garçons. Et c'est une exception parce que les questions d'addiction concernent beaucoup plus les garçons que les filles. Ordinairement, sur à peu près toutes les différents types de formes d'addiction qui existent, qui sont liées à différents objets, on trouve un ratio où il y a 80% de garçons. Alors pour les jeux vidéo, on est à 98% de garçons et généralement 20% de filles, donc moins de filles concernées par les questions de l'addiction. Les filles sont par exemple plus concernées par les questions de troubles alimentaires. Alors quand on est une jeune fille, quand on a 14-15 ans et que le corps est en train justement de se modifier, de changer de manière naturelle parce que c'est l'adolescence, on peut avoir quelques doutes à l'égard de son corps, pas se sentir très à l'aise. Et puis, d'un coup d'un seul, sur Internet, on découvre un site de pro-ana dans lequel ce qui est prôné, c'est une maigreur à la limite de la mort. pour certaines personnes. Il y a des jeunes femmes qui décèdent parce qu'elles se font maigrir de manière trop importante. Alors si je suis toute seule dans mon coin et que j'ai pas d'internet et que je pense que je suis trop grosse et que j'essaye de me faire maigrir toute seule dans mon coin, bah oui, évidemment, ça va me poser un problème, mais à un moment donné, je vais être confrontée à d'autres gens qui vont me dire, qui vont peut-être me dire, on aimerait bien savoir ce qui se dit là-bas. Visiblement, ça a l'air beaucoup plus intéressant que le reste. Ouf. Bon, alors maintenant, quand je suis cette jeune fille à l'ère d'Internet, je suis avec mes doutes, mes prises de tête, mon malaise, etc. Et je tombe sur un site ProAna, dans lequel on me dit la maigreur, c'est bien. Je t'encourage à maigrir, parce que sur ces sites-là, c'est ce qu'on va tenir. Du coup, je ne me sens plus isolée dans ma pratique. C'est-à-dire, avant, je pensais être toute seule à vouloir maigrir. Mais avec Internet, je suis mise en contact avec d'autres jeunes gens qui ont aussi cette motivation à maigrir de manière outrancière, de manière beaucoup trop importante. On trouve les mêmes sites pour le suicide. Alors, bon, c'est pas joyeux hein, comme sujet, c'est vrai, mais parlons-en un petit peu. Mais c'est vrai que ce qui va aider quelqu'un à passer à l'acte, à cet acte terrible et tragique qui est le suicide et donc qui est la mort, qui l'aide souvent, c'est de savoir qu'il y en a d'autres qui l'ont fait. Et sur Internet, je vais trouver d'autres gens qui l'ont fait. Et il faut savoir mettre des limites aussi hein, dans ces propositions. C'est très, très mystérieux. Dans ces propositions qui peuvent être faites sur Internet. Ça veut dire que cette proposition de « alors, toi ce matin, tu avais envie de mourir, bah tiens, moi j'ai une technique pour le faire ». Et puis je l'ai, puis je suis tout seul avec cette information dans ma chambre, ça peut être à un moment donné dangereux pour soi. Le problème avec Internet, il est bien de se trouver ses limites, de se trouver ses limites, et je reprends là un mot que vous connaissez certainement, parce que on doit souvent vous le proposer aussi, qui est le terme d'autonomie. Alors autonomie, c'est un peu chiant par contre. Merci. Voilà, merci. Le terme d'autonomie, on doit vous le présenter assez souvent et souvent il est accolé au terme indépendant. Ben moi je préfère le terme autonomie. Autonomie, ça vient du grec et ça veut dire autonormé, ça veut dire autonomos. Exactement. Ça veut dire se donner ses propres normes. C'est-à-dire arriver à se connaître suffisamment pour savoir où sont ses limites. Et quand on est face à un outil qui n'a pas de limite, c'est à soi-même de se trouver ses propres limites. Et finalement, le défi d'Internet, c'est un peu le défi de la vie d'adulte. Hein. C'est un peu pareil, parce que être un adulte, c'est se donner ses propres normes, c'est se donner ses propres limites. Et le défi donc que vous avez à relever, vous, c'est à la fois trouver des limites dans Internet et des limites dans votre propre existence, et évidemment aussi des perspectives. Moi, je préfère le terme autonomie au terme indépendance, qui nous fait largement penser au terme dépendance. Hein, l'indépendance, c'est l'inverse de la dépendance. Et qu'est-ce que c'est que la dépendance? La dépendance, c'est le lien. Être dépendant, c'est naturel. Être dépendant les uns des autres, je suis dépendant de mes parents, de mes copains, de mes frères et sœurs, de mon chien si j'en ai un. Je suis dépendant de mon sport que je fais chaque semaine parce que j'aime bien, parce que ça me procure du plaisir. Je suis dépendant de l'école. Ah bah ouais, j'y vais tous les jours. Et... des fois avec plaisir, des fois avec moi, mais j'en suis dépendant parce que s'il n'y avait pas ça, bah ça me manquerait presque. Je suis dépendant et généralement, je passe d'une dépendance à l'autre, assez naturellement dans la même journée. C'est-à-dire que le matin, je suis dans ma dépendance alimentaire, il faut que je petit déjeune avant de partir, et puis ensuite je me rends à l'école, et puis ensuite je vais peut-être aller faire du sport à la sortie de l'école, et ainsi de suite. Je suis dépendant de mon petit copain, etc. Donc être dépendant, c'est inhérent à toute vie humaine. Nous sommes tous dépendants les uns des autres, et c'est pour ça que moi je préfère le mot autonomie que le mot indépendance, quand on dit justement il faut que tu deviennes indépendant. Bah, être indépendant, c'est un peu un leurre, parce qu'on aura toujours besoin de son voisin ou de quelqu'un qui n'est pas loin de soi pour continuer à avancer dans la vie. L'addiction, donc comme j'ai déjà utilisé ce terme jusqu'ici, je le reprends. L'addiction, c'est la forme tyrannique de la dépendance. L'addiction, c'est quand une de ces dépendances, mettons par exemple la dépendance à mon petit copain, parmi toutes celles que j'avais, quand l'une de ces dépendances va prendre plus d'importance que les autres. Et elle va prendre tellement d'importance qu'elle va devenir unique. Je ne vais avoir plus qu'une seule dépendance. Il va y avoir un phénomène de centration. Alors si je deviens dépendante à mon petit copain, c'est-à-dire que je ne vais plus pouvoir vivre sans lui. Donc ça va être toutes les 5 minutes de penser à l'appeler, d'espérer qu'il me rappelle, de lui envoyer des SMS. Ça va me perturber et ça va m'empêcher, en fait, ça va m'empêcher de pouvoir suivre mes cours normalement. Parce que je ne vais pas réussir à me concentrer. Mon esprit est déjà occupé par autre chose. On peut prendre puisqu'on est en plus là pour parler un peu plus des jeux vidéo. Typiquement, dans les jeux vidéo, ce qui se passe et ce que racontent les joueurs, c'est qu'ils sont complètement envahis par leurs jeux vidéo. Donc ils vivent généralement au rythme de leurs jeux vidéo. Et puis, même quand ils sont en cours, moi, ils me racontent, à un moment donné, ils décrochent. Et puis, ils commencent à penser aux aventures, aux exploits qu'ils mènent dans ces mondes merveilleux que sont les jeux vidéo. Donc il y a une centration, et on dit d'ailleurs de l'addiction que c'est la perte de liberté de s'abstenir. Alors c'est un peu, ça peut paraître un petit peu, c'est une phrase un peu compliquée, mais qui veut bien essayer de vous expliquer que l'addiction c'est de la suppression de liberté plutôt qu'un gain de liberté, même si au départ on a l'impression de se sentir souvent plus libre. Je pense particulièrement à cette notion de liberté parce qu'il y a quelques mois de ça, j'ai accueilli un jeune homme qui doit pas être très loin en âge de vous, il a 20 ans, donc il est un petit peu plus âgé que vous, il a obtenu son baccalauréat, tout ça. Et il a commencé à fumer du cannabis à 17 ans. Et il est venu me voir parce qu'il se sentait prisonnier de cette consommation. Alors ils sont assez rares les jeunes qui viennent poser les choses de cette manière-là, qui sont conscient de leur aliénation, de leur perte de liberté de s'abstenir. Mais lui, il est venu poser un peu les choses de cette manière-là. Et ce qu'il m'a expliqué, et qui peut paraître assez contradictoire, c'est que la première fois qu'il a fumé, ce qu'il a ressenti, ce qu'il m'a dit, c'est « je me suis sentie libre, justement, en fumant. Je me suis sentie libre et 3 ans après, ça m'a enfermée. » Et ça, c'est typiquement l'addiction. C'est-à-dire que au tout départ, souvent, dans l'addiction, on a un sentiment de solution, on a un sentiment de plus, on a un sentiment d'être mieux avec que sans. Et c'est que plus tard, une fois que le temps a passé, que les choses se renversent. Les 3 éléments qui nous permettent de dire qu'on a affaire à une addiction, parce que bon, ça va peut-être aller les addicts du chocolat ou les addicts à la télévision. Dans l'ensemble, n'importe qui, vous ou moi, si jamais il y a un comportement qui commence à devenir répétitif pour vous, même si ça concerne du chocolat ou des séries TV, puisque on entend parler d'addiction aux séries télé ou au chocolat, comme ça revient. Si jamais, en tous les cas, vous avez un souci avec un comportement de ce genre ou avec n'importe quel comportement dans votre vie, la meilleure expérience à mener pour savoir si vous en êtes dépendant ou pas, c'est de vous en passer. C'est d'essayer de vous en passer. Si vous n'y parvenez pas, alors à ce moment-là, on est dans la situation d'une addiction. C'est-à-dire que le premier élément de toute addiction, c'est d'adopter un comportement qui procure du plaisir. Eh ben ouais, hein. On ne va pas se mettre à se défoncer la tête avec des produits, avec des drogues, etc. On ne va pas se mettre à adopter des comportements et y passer des heures, comme par exemple passer des heures sur des jeux vidéo pour se faire du mal. Les gens, ils font ça parce que ça leur fait du bien, parce que ça leur procure du plaisir. Et les plaisirs, il y en a plein, hein. On veut être le plus fort, être le plus puissant, avoir des capacités qu'on n'a pas, ou on veut être au-dessus des autres, tout simplement. Ça peut être ça, le plaisir. Ça peut être de partager avec d'autres, ça peut être d'être déconnecté, d'échapper aux contraintes du quotidien. Les plaisirs, ils sont multiples, j'espère que vous en connaissez beaucoup d'autres. Donc l'adoption de ce comportement, c'est toujours pour obtenir du plaisir. Et alors j'ai complété par « et ou » soulager d'un malaise intérieur. Parce que pour certaines personnes, il y a un tel malaise, comme ce garçon-là, dont je vous parlais, ce jeune de 20 ans, il y avait un tel malaise au départ, que quand il a commencé à consommer du cannabis, effectivement, il était tellement enfermé, que quand il a commencé à consommer du cannabis, bah oui, il s'est senti vraiment mieux. Et lui, ça l'a véritablement soulagé d'un malaise intérieur. C'est pas le cas de tout le monde. La deuxième chose, le deuxième élément de l'addiction, c'est l'apparition de conséquences négatives. Il faut savoir qu'un comportement addictif, il faut toujours le répéter. C'est-à-dire que si vous vous mettez à boire de l'alcool, vous allez boire un verre, ça va avoir un effet sur vous, et puis l'effet va disparaître parce qu'on élimine les toxines, on élimine l'alcool qui est dans notre corps, et heureusement, les effets disparaissent. Si je veux réavoir à nouveau les sensations que j'ai eues sous alcool, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je reboive un verre. Et encore un. Et encore un. Et donc, la répétition, tous les objets addictifs fonctionnent de cette manière. Tous les objets addictifs vont vous inciter à répéter. Et la répétition va faire apparaître un certain nombre de conséquences négatives. Pour les jeux vidéo, c'est extrêmement caricatural, mais vous savez peut-être ce qui se passe très généralement, les conséquences négatives d'une activité intense dans les jeux vidéo, c'est que généralement on se décale au niveau du rythme, jour-nuit, c'est-à-dire qu'on tarde de plus en plus dans la nuit pour pouvoir continuer à jouer tout simplement, et on a du mal à se lever le matin, et du coup ça décale au niveau du rythme jour-nuit. Et puis, ça induit souvent un isolement social. Parce que celui qui va pratiquer les jeux vidéo, il va généralement le faire dans sa chambre, tout seul, même s'il a l'illusion d'être accompagné de beaucoup d'autres. Et petit à petit, il va bien sûr de moins en moins investir les autres relations, et c'est ça qui va mener à un certain isolement social. C'est la même chose avec la drogue. Hein. C'est le même genre de conséquences négatives qui apparaissent avec la drogue. C'est-à-dire que, très généralement, les personnes toxicomanes vivent plutôt la nuit, dorment plutôt le jour, de la même manière que le joueur de jeux vidéo. Ils ont généralement un isolement social qui s'installe du fait de leur marginalité, du fait de leur consommation de drogue. Et puis, il y a un élément là que j'ai pas noté, mais un des secteurs qui est le plus touché par toutes ces consommations, par tous ces comportements, c'est l'alimentation. Très généralement, ça va générer une mauvaise alimentation, tous ces comportements. Ça, ce sont les conséquences. Et le troisième élément de l'addiction, c'est celui dont je vous parlais au tout départ, c'est la perte de contrôle. Ça veut dire que vous n'êtes pas addict si vous arrivez à reprendre le contrôle sur un comportement en vous mettant à vous-même vos propres règles. Par contre, si, en dépit de vos efforts, c'est-à-dire en dépit de votre volonté, vous vous êtes dit « bon, allez, ce soir, je fume pas de cannabis, c'est bon, j'en ai pas besoin, etc. » Et en dépit de ma volonté, ben, je me suis quand même roulé un pétard pour le fumer. Ça veut dire que là, vous commencez à être dans une situation de dépendance. Ça veut dire que là, il commence à y avoir de la contrainte et c'est plus vraiment un choix. Cette consommation, c'est quelque chose auquel vous êtes obligé. Donc c'est bien cette perte de contrôle, cette incapacité à diminuer alors que je le souhaite, qui fait qu'on se trouve dans une addiction. Et c'est aussi ça qui légitime notre intervention à nous soignants. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait cette incapacité pour que nous, on puisse aussi intervenir et aider les gens. Alors de quoi peut-on devenir addict ? Vous avez peut-être une idée. Bon. Ah. Ce qui est bien fait, c'est que je sais hyper bien faire les PowerPoints. Du coup, tout est dans le bon ordre. Voilà. Alors, de quoi peut-on devenir addict? Alors, il y avait un Américain qui s'appelle Stanton Peel qui disait « On est accro à une expérience. On n'est pas accro à un produit, on n'est pas accro à un comportement. On est accro à une expérience. » C'est-à-dire, la première fois, par exemple, qu'un usager a consommé de la cocaïne, qui est un une drogue. La première fois qu'il en a consommé, c'était dans un contexte particulier. Il y avait une fête, il y avait d'autres gens qui étaient très sympathiques ce soir-là, etc. Il a pris ce produit et puis il s'est senti plus puissant que d'habitude, parce que ça donne aussi cette sensation-là. Eh bien, la personne, elle est tombée accro non seulement du produit de la cocaïne, mais aussi de tout le contexte, c'est-à-dire le contexte festif, c'est la fête, c'est les amis, c'est tout ça. C'est toute cette expérience avec tous ces ingrédients-là, duquel généralement ils tombent accro. Donc Stanton Pinne, c'est un psychologue américain. Ce qui est intéressant, lui, c'est qu'il a fait ses études sur l'amour. Et il a montré que le coup de foudre, c'était très similaire finalement, enfin, ou plutôt on va dire les choses dans un autre ordre, mais la rencontre avec un objet addictif, la rencontre avec une drogue ou la rencontre avec un comportement addictif, eh bien cette rencontre, elle est similaire à la rencontre amoureuse, au coup de foudre. Dans notre cerveau, en tous les cas, ça fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que ça soit les drogues, ou que ça soit des comportements comme les jeux d'argent, ou les jeux vidéo, ou l'amour, tous agissent sur le même circuit, qu'on appelle le circuit de la récompense. Et tous sont donc, enfin tous fonctionnent avec le même neurotransmetteur qui est la dopamine. Et finalement, on se rend compte que le processus toxicomaniaque ou le processus addictif, il est très similaire, c'est ce que Stanton Pinne met en avant, à une histoire d'amour. Et dans une histoire d'amour, vous savez, il y a un coup de foudre, il y a une lune de miel qui va durer 1, 2 ans, 3 ans, durant laquelle tout est beau, tout est idéalisé, tout est fantastique. Et puis après la lune de miel, il y a comme si les masques tombaient, je parle dans la relation affective, comme si les masques tombaient un peu, et puis on voit l'autre un peu plus avec ses défauts. Alors qu'avant, on avait tendance à le trouver formidable, génial, et que c'est formidable qu'il laisse traîner ses affaires partout, on trouvait que ça donnait un côté artiste, tout ça. Non, au bout de 2-3 ans, c'est fini, la lune de miel. Et là, on est plus face à la réalité et en général, on rame un peu. C'est pareil avec les produits. C'est exactement pareil avec les produits. Mais continuons sur cette question de quoi peut-on devenir addict. Donc cette expérience, donc je disais, on est accro à une expérience. Cette expérience, on l'obtient à partir donc de produits, de substances ayant certaines caractéristiques, principalement les drogues, l'alcool et le tabac. Certains de ces produits, certaines de ces substances entraînent une dépendance physique, c'est-à-dire le corps réclame. Vous connaissez les 3 produits qui entraînent une dépendance physique? Comment? La cigarette, le tabac, ouais. La nicotine. Le principe actif du tabac, c'est la nicotine, découvert par Monsieur Nico. C'est pas très original. Ensuite, l'alcool, l'éthanol. Donc la substance active de l'alcool, c'est l'éthanol. Et l'alcool, ça rend très très dépendant physiquement. Vous vous en êtes rendu compte ou pas? Vous avez déjà vu des gens qui ont trop bu? Quelqu'un qui... Non, mais c'est important. Qui ont trop bu. Par exemple, quelqu'un qui boit depuis longtemps, et mettons qui n'aurait pas pu boire à un moment donné, il va être dans un état physiquement qui est assez remarquable. Très généralement, il est pas bien, il tremble beaucoup. Hein? Il a des sudations, il n'est pas très à l'aise. Par exemple, alors l'alcool entraîne une grosse dépendance physique. Et puis, le troisième produit qui entraîne une dépendance physique, vous le connaissez? Ah, caféine, ouais. Mais c'est pas celui-là auquel je pensais, mais je suis d'accord avec vous. Le café est une substance psychotrope, psychoactive, qui... Et d'ailleurs, le café, il faut pas trop en boire, hein. Ça peut faire péter les plombs. Non, une autre substance que vous connaissez sans doute, qui nous vient de loin. Le cannabis nous vient de loin, mais n'entraîne pas de dépendance physique. Non, le THC, c'est la substance active du cannabis, le tétrahydrocannabinol. Mais ça, ça n'entraîne pas de dépendance physique. C'est la morphine. Donc, dans toute la famille de ce qu'on appelle les opiacés. Dans la famille des opiacés, vous avez l'héroïne, la morphine, la codéine. Vous avez aussi les médicaments qu'on utilise pour se détendre, comme ce qu'on appelle les médicaments anxiolytiques. Les benzodiazépines, le Valium, le Lexomil. Peut-être en avez déjà vous en avez peut-être déjà entendu parler, non? En tous les cas, dans cette catégorie-là, des opiacés, ces substances-là, elles vont entraîner une dépendance physique sévère. Ça veut dire que, imaginons cette fois-ci, je vous parlais tout à l'heure d'une personne qui boit régulièrement et qui ne pourrait pas boire un jour, elle aurait des tremblements, elle aurait des sudations, elle serait dans un état d'angoisse assez avancé. Une personne qui serait en manque d'opiacés est dans un état encore plus désagréable. La décroche d'héroïne, on vomit, on a chaud, on a froid, on se vide par tous les trous, je ne vous fais pas de dessin. On est plié en quatre, on a les muscles qui se tétanisent, on a des vrais chauds-froids, c'est l'aspect physique du sevrage, c'est-à-dire ça c'est le corps, parce que le corps est en manque et il réclame et il se manifeste par tous les moyens qu'il peut. Et puis il y a aussi dans la tête, parce que alors là, que ce soit des produits ou des comportements, la dépendance psychique, donc la dépendance par l'esprit, la dépendance morale, elle est extrêmement forte. Elle est bien plus forte. C'est quelque chose d'assez presque décourageant quand vous voyez quelqu'un, quand même un peu plus âgé que vous, qui vient pour la 10e fois à l'hospitalisation pour décrocher, pour faire un sevrage, et qui va souffrir de tous ces symptômes, et pourtant qui va reconsommer par la suite de ce produit. La drogue, ou du moins certaines drogues, entraînent pour un certain nombre d'individus, malheureusement, des carrières de vie terribles, tragiques. C'est des trajectoires très particulières avec beaucoup d'événements malheureux, souvent. Et alors je disais, on peut être dépendant de substances, de produits tabac et de comportements spécifiques, les jeux de hasard et d'argent, on en a déjà parlé, les jeux vidéo, je vais vous en parler un peu plus, le sport aussi. Il y a des gens qui courent avec des chevilles foulées, parce qu'ils ont besoin de courir. Ils ont la sensation, enfin voilà, c'est plus important de courir, alors ils vont courir alors qu'ils ont déjà mal aux pieds. Et ça, c'est aussi très dangereux évidemment pour le corps. Les achats compulsifs, ah ça aussi c'est une addiction plutôt féminine, hein, les filles, c'est rare, mais c'est bon. Les médicaments psychotropes, c'est-à-dire, je vous parlais du Valium, du Lexomil, des anxiolytiques, ça aussi il y a beaucoup de femmes qui en consomment. Et on parle beaucoup moins souvent de ce que font les femmes, c'est plus discret, mais c'est tout aussi grave. Voilà. La nourriture, on en a parlé aussi. Bon. Mais pour les jeux vidéo, comment ça marche? D'abord, vous le savez mieux que moi, enfin peut-être j'espère. Il existe différents types de jeux vidéo. Et concernant les jeux vidéo qui pourraient induire un comportement addictif, il faut savoir d'abord que je n'ai jamais vu de joueur de jeux vidéo dépendant de Mario Kart. Hein. Généralement, ce sont des jeux qui vont avoir des caractéristiques bien spécifiques, je dirais même des caractéristiques accrocheuses. Donc le premier jeu, la première catégorie de jeux, sans doute vous la connaissez déjà, c'est ce qu'on appelle les MMORPG. Waouh. Superbe acronyme qui signifie en fait les jeux de rôle massivement multijoueurs. Ça veut dire massivement multijoueur, ça veut dire qu'on va se retrouver sur une plateforme avec au moins 185 autres joueurs. Vous avez tous joué comme moi à des jeux traditionnels, des jeux de société traditionnels. Déjà quand on est 8 autour de la table, c'est le bordel. Alors vous imaginez, quand il y a plus de 185 joueurs qui sont connectés sur le même jeu, c'est un jeu d'une dimension qui prend une dimension évidemment bien plus intéressante, mais bien plus compliquée, bien plus complexe aussi que quand on est juste 7 ou 8 autour de la table. Alors, ce sont les MMORPG, des jeux de rôle. Vous les connaissez ou pas? Et le plus célèbre en ce moment, c'est World of Warcraft. Tout le monde connaît WoW. Au revoir. Tout le monde connaît World of Warcraft? Alors, WoW, c'est le jeu le plus connu dans sa catégorie actuellement. WoW. Mais il y en a eu d'autres avant lui. Dark Age of Camelot, DAOC, était un grand succès. Le premier jeu de cette catégorie, c'était EverQuest, qu'on appelait aussi NetherRest. Il est sorti en 1995. Il y a même une association à l'époque qui s'était créée de femmes de joueurs, et elles avaient créé une association qui s'appelait les Veuves d'EverQuest, tellement elles se sentaient abandonnées par leur mari qui passait plus de temps sur leurs jeux vidéo qu'avec elles. Ça a commencé dans les années 90, ces jeux-là, milieu des années 90. Et le succès actuel chez les plus âgés, c'est World of Warcraft. Chez les plus jeunes, c'est Dofus. Vous connaissez Dofus peut-être aussi? C'est des jeux qui fonctionnent sur le même modèle. C'est des jeux qui ont trois caractéristiques. Enfin, trois éléments particulièrement accrocheurs. Et ça sera tout de suite à vous après, pour parler. Alors les trois éléments qui font que un jeu comme World of Warcraft est plus accrocheur, mettons, qu'un jeu, d'ailleurs je les ai notés, est plus accrocheur qu'un FPS, plus accrocheur qu'un RTS, qu'un jeu de stratégie, etc. Les trois éléments qui font que c'est plus accrocheur. Le fait d'incarner un avatar, c'est-à-dire qu'on a un personnage qui nous représente dans le jeu. Et en tant que joueur, on va avoir tendance à vouloir l'améliorer, son personnage. Et puis même, on va s'y attacher. Il va avoir des qualités. C'est bien ça l'avantage d'Internet aussi, ce personnage que moi je n'ai pas. Je vais lui donner des qualités que je n'aurai jamais en tant qu'humain terrestre, par exemple de voler. Donc il va avoir quelque chose d'idéal, ce personnage, et du coup je vais peut-être m'accrocher à ce personnage, d'autant que dans ma vie peut-être, dans ma vie réelle, la vie est peut-être un peu moins sympathique. La deuxième caractéristique accrocheuse, c'est l'immersion dans des univers spécifiques. Ces univers, ils sont dits persistants. Ça veut dire qu'ils se développent sur eux-mêmes. Ça veut dire que quand je ne suis pas dans le jeu, il s'y passe quand même des choses. Et ce fait-là, ça crée une forme de préoccupation. Ça veut dire que je peux être en classe, à regarder mon professeur, mais être en train de penser à ce qui se passe dans le jeu. Et à raison, puisqu'il s'y passe des choses. C'est pas comme si le jeu était arrêté, le jeu se développe encore. Autre caractéristique de ces univers, ils sont infinis. Ce qu'on vous promet dans ces jeux-là, World of Warcraft, ça fait depuis février 2005 qu'il est paru en France, c'est-à-dire plus de 7 ans, ce qu'on vous promet dans ce jeu-là, c'est qu'il n'y a pas de fin. Et pour certaines personnes, c'est rassurant qu'il n'y ait pas de fin. Il n'y a pas de fin, mais il n'y a vraiment pas de fin. Il n'y a même pas d'objectif dans le jeu. À part massacrer des monstres toujours plus forts, il n'y a pas réellement d'objectif dans ces jeux-là. Bon, ils sont permanents, c'est ouvert 24 heures sur 24. Ça veut dire que si à 3 heures du matin, j'arrive pas à dormir dans mon lit, bon, je peux toujours aller faire un tour sur le monde de Warcraft. Il y aura peut-être quelqu'un avec qui discuter, etc. Donc ils sont très accessibles aussi. Et puis j'ai mis magique parce que c'est des mondes qui sont quand même un peu plus... Enfin, qui sont même enchantés, dans lesquels on a des pouvoirs, je le disais tout à l'heure, le pouvoir de voler, le pouvoir de se transformer en animal, etc., qu'on n'a pas dans la réalité. Et c'est vrai que ça peut être attractif. Enfin, c'est attractif. De toute façon, un monde magique, ça fait un peu plus rêver que la dure réalité. Ça, c'est assez vrai. Et puis le troisième élément qui fait que c'est particulièrement accrocheur, ces jeux-là, c'est les relations entre joueurs. C'est-à-dire que ce sont les éditeurs de ces logiciels ludiques qui ont pensé Vous faites évoluer votre personnage donc de level en level, vous le montez en expérience au fur et à mesure. Et puis les constructeurs de ces jeux ont pensé, tiens, ça serait bien s'ils devaient se regrouper donc, dans des guildes, ça s'appelle des guildes, c'est grand regroupement de joueurs, mais ça a d'autres noms, ça peut s'appeler des clans dans d'autres jeux, etc. Et les joueurs se regroupent dans des clans. Ça ressemble beaucoup aux réseaux sociaux, ça ressemble à Facebook, c'est la même chose, c'est la version, c'est la dimension réseau social dans ces jeux vidéo-là. C'est-à-dire que je suis obligée de me regrouper, et que ça crée une certaine interdépendance entre les joueurs. C'est-à-dire, si j'ai donné ma parole que je serai là pour faire un raid, c'est-à-dire une mission où on va être 40, je ne peux pas faire autrement que d'y être. Parce que si je manque, les autres, ils vont m'en vouloir. Là, s'il manque une seule personne, c'est comme au football, hein. S'il manque une seule personne, on ne peut pas faire le match. Donc on ne peut pas faire la mission. Du coup, ça me fait peser, évidemment, à moi, joueur, une certaine pression aussi sur mes épaules. Je m'étais dit que j'irais pas jouer, mais comme j'ai donné ma parole à 39 autres personnes, c'est difficile. C'est difficile de retirer ma parole. Enfin, c'est quand même pas facile de ne pas y être. Alors, il y a d'autres formes de jeu. Alors, c'est plus actuel, ou pour lesquelles il y a des joueurs qui se présentent actuellement. Une autre forme de jeu, c'est League of Legends. Alors, c'est ce qu'on appelle un MOBA, on m'a dit. Moi, j'en sais rien, c'est les joueurs, hein, qui m'apprennent. Un MOBA, la différence, c'est un peu pareil qu'un MMORPG, c'est pareil que World of Warcraft, sauf que cette fois-ci, j'ai une armée. Je dirige une armée, je ne suis pas incarnée par un personnage, j'ai une armée entière. Et en fait, je voulais vous dire deux mots aussi à propos de World of Warcraft, qui est un phénomène planétaire. Il y a plus de 11 millions de joueurs de World of Warcraft dans le monde. Ça fait quand même du monde. Je voulais juste vous parler de l'aspect économique d'un tel jeu vidéo. Donc c'est un jeu qui est payant. Désormais d'ailleurs, ils ont lancé une formule qui vous permet de ne pas payer le jeu jusqu'au niveau 30 de votre personnage. Sachez qu'il y a 85 niveaux dans ce jeu qui est World of Warcraft. Donc maintenant, ils vous offrent la possibilité de commencer le jeu et d'aller même jusqu'au niveau 30 et ensuite seulement vous payer. Mais sinon, il faut savoir que c'est un jeu qui est payant. Ça coûte quand même 30 euros la boîte de jeu au départ et il y a un abonnement par mois qui coûte entre 10 à 15 euros. Et que si vous mettez tout ça bout à bout, 11 millions de joueurs, il y en a qui s'en mettent plein les fouilles, quand même. C'est surtout ça que ça veut dire. Parce que pour les gens qui dirigent, enfin qui possèdent ce type de jeu vidéo, évidemment, vous êtes la poule aux œufs d'or. Dans les loisirs actuellement, la musique a été largement dépassée par les jeux vidéo, c'est devenu le premier poste de dépense des jeunes. Et ceux qui détiennent aujourd'hui Blizzard qui est l'éditeur d'un jeu comme World of Warcraft, ceux qui détiennent, autrement dit, World of Warcraft aujourd'hui, c'est Vivendi Universal. Ça vous dit quelque chose? C'est parmi les plus grosses sociétés, c'est parmi les maîtres du monde, en gros, parce que ces gens-là, ils brassent des millions et des milliards et ils ont extrêmement de pouvoir. Voilà, ce sont des gens comme ça qui détiennent ces jeux vidéo-là. On vous vend un objet de consommation. C'est un objet de consommation. Et je crois que c'est important aussi que vous le sachiez, parce que je crois qu'il faut éveiller aussi sa critique à l'égard de ces jeux vidéo, quels qu'ils soient. Moi, je les respecte, hein, je trouve qu'ils ont des avantages, mais ils sont aussi des objets de consommation. On essaye de vous les vendre, quand même, un peu. C'est parti. Ceci dit. Donc voilà, il y a les MOBA comme League of Legends. Et puis il y a une autre catégorie que vous connaissez sans doute très bien, parce que c'est vraiment le grand succès quand on a entre 12 et 15 ans, à peu près 13, 14, 15 ans. C'est les FPS, les First Person Shooters. Je pense que vous y avez tous joué, non? Allez, tout le monde a joué à ça. À quoi? À Call of Duty? Alors ce genre de jeu, Call of Duty ou Counter-Strike, évidemment le plus ancien, enfin pour ma génération c'était Counter-Strike, maintenant c'est Call of Duty. Pour ce genre de jeu, moi j'ai rencontré des jeunes gens qui passaient des 10-15 heures par jour, hein. Quand même, sympathiquement, à massacrer des personnages numériques. Puisque dans des jeux comme Call of Duty, il s'agit essentiellement de massacrer des adversaires, etc., etc. Voilà. Ça pose une question. En tous les cas, moi, j'en ai une à vous poser. Et j'espère qu'on va avoir le temps de la discussion. Je vais essayer d'avancer un peu plus vite. Ça me pose une question, moi. Pourquoi tous les jeux vidéo sont-ils basés sur la violence? Pourquoi tous les jeux vidéo, dans tous les jeux vidéo, il s'agit de massacrer son adversaire? Enfin, dans la majorité des jeux vidéo. Vous avez déjà des réponses? Vous avez déjà des réponses ou on continue? Parce que c'est marrant. Eh bien ouais, vous avez raison, sans doute que c'est marrant. Mais c'est quand même un peu limité. Parce que ça c'est marrant, mais moi je connais plein d'autres choses qui sont marrantes que de tout le temps massacrer des monstres. Bon, passons. Comment peut-on devenir addict? C'est pas donné à tout le monde. C'est une grande affaire que l'addiction. Ça se passe comme ça souvent. Il s'agit d'abord d'une rencontre. Une rencontre qui a souvent lieu à l'adolescence. Alors pourquoi ça a souvent lieu à l'adolescence? Parce que l'adolescence, c'est l'âge des expérimentations, c'est l'âge des expériences. Et je le disais tout à l'heure, on est accro à une expérience. Donc à l'adolescence, on essaye plein de trucs, on tâtonne, on essaye plein de trucs, quoi. Et on n'a pas forcément, justement une connaissance de soi suffisante pour savoir où il ne faut pas aller pour soi, justement. Donc c'est une période très riche, l'adolescence, parce que c'est une période de grands changements sur tous les plans. Très généralement, on a la transformation, on passe d'un corps d'enfant à un corps d'adulte en 2 ans. C'est quand même hyper rapide, hein. Le reste de notre développement est vraiment beaucoup plus lent que cette période-là, qui est très particulière, passionnante d'ailleurs. Alors ça commence souvent par une rencontre qui va prendre plus ou moins d'importance en fonction de ce qui se passe dans ma vie. C'est-à-dire, je vous parlais tout à l'heure, je vous disais, finalement, une conduite addictive, ou du moins quand on rencontre la première fois le produit, ou quand on rencontre la première fois un comportement, c'est comme un coup de foudre. Hein, je disais que c'était similaire, enfin c'est pas moi d'ailleurs, c'est Stanton Peale, mais qui disait que c'était similaire à une rencontre amoureuse, quoi. Donc on va rencontrer le produit et ça va faire comme un coup de foudre, quoi, comme un gros flash. D'ailleurs, à propos de l'héroïne, on parle du flash d'héroïne, c'est-à-dire la première fois où les personnes consomment de l'héroïne, il y a un effet très particulier, et la plupart des toxicomanes recherchent ensuite, en répétant leur consommation, à revivre ce flash-là, ce flash de départ, qu'ils ne revivent jamais. Ils ne font que se détruire, malheureusement. Ce qui se passe, c'est que, comme je vous le disais, il y a d'abord cette rencontre et puis le comportement va s'installer. La plupart des joueurs de jeux vidéo que je rencontre, quand ils ont acheté le jeu, comme ils me disent, c'était pas pour y jouer 15 heures par jour, hein, au départ. Au départ, ils ont acheté un jeu pour se distraire. Et puis, petit à petit, ils se sont rendus compte que s'ils voulaient être performants dans ce jeu-là, s'ils voulaient être bons, ben, il fallait y passer quelques heures par jour. Un jeu comme World of Warcraft, une session de jeu sur World of Warcraft, ça ne dure pas 20 minutes, ça ne dure pas 40 minutes, ça dure 3-4 heures. C'est-à-dire qu'il faut s'y consacrer 3-4 heures par jour. Et petit à petit, parce qu'ils voulaient améliorer leur personnage, eh ben, ils y ont passé toujours plus de temps. De même qu'un consommateur, mettons, d'alcool, ne va pas devenir alcoolique du jour au lendemain. Ce qui se passe souvent, c'est qu'au début, je bois un verre d'alcool et je me rends compte que ça a un effet positif. Tiens, j'étais stressée, je ne le suis plus. C'est un avantage. La fois d'après, quand je suis stressée, je reprends un verre et ça refait la même chose. Et puis je recommence. Et puis, au bout de la 5e ou 6e fois où j'ai bu un verre d'alcool parce que je me sentais stressée, ça n'a plus le même effet. Je me rends compte que l'alcool n'a pas suffisamment d'effet. Alors là, très naturellement, j'augmente la dose. Je me dis, bah, si je bois 2 verres d'alcool, ah bah oui, ça marche. Si je bois 2 verres d'alcool, j'ai toujours cet effet de me détendre comme je l'avais eu la première fois. Sauf que maintenant, j'ai besoin de boire 2 verres d'alcool au lieu d'un pour avoir le même effet. C'est ce qu'on appelle la tolérance. C'est-à-dire que notre corps, il est tellement bien fait qu'il s'adapte. Mais il s'adapte au pire comme au meilleur. Donc du coup, il s'adapte à l'alcool. Ce qui fait que je suis obligée petit à petit d'augmenter les doses. C'est pareil avec les jeux d'argent. Les joueurs d'argent, au début, quand ils ont commencé à jouer, ils jouaient 1 euro sur un pari sportif. Parce qu'ils aimaient bien le football. Et puis au bout d'un moment, jouer 1 euro, ça leur faisait plus rien. Donc ils passent à 10 euros, puis 100 euros. Mais c'est pas pareil de perdre 1 euro que d'en perdre 100. Ça n'a pas les mêmes conséquences. Donc les choses, elles s'installent généralement progressivement, de manière, je dirais, presque insidieuse, un peu vicieuse. C'est pas du jour au lendemain que je deviens accamée. C'est petit à petit, sans réellement m'en rendre tout à fait compte. Parce que moi, au début, ce que je remarque, c'est que je vais mieux. Par exemple, par rapport aux jeux vidéo, on peut imaginer, les joueurs de jeux vidéo que je reçois, moi, c'est des gens super brillants, super intelligents. Généralement, même, c'est ce qu'on appelle des enfants précoces. C'est-à-dire des gens qui ont un QI plus élevé que la moyenne. Et eux, ce qu'ils m'expliquent, c'est qu'ils n'ont jamais travaillé, jamais étudié à l'école. Mais ils ont toujours eu les meilleurs résultats, jusqu'au jour où ils n'ont pas eu le meilleur résultat. Parce qu'à un moment donné, vous en êtes rendu compte, vous êtes au lycée, ce que jusqu'au collège, à peu près, bon, si je travaille pas trop à la maison, ça va encore. Mais au lycée, si j'étudie pas chez moi, j'arrive pas à suivre. Et généralement, ces élèves-là, enfin, ces jeunes-là, ils n'ont pas spécialement beaucoup étudié, mais ils ont toujours eu les meilleures notes. Ben, le jour où ils ont une mauvaise note, les boules, hein. C'est un échec. Et cet échec-là, une manière de le réparer, bon, bah d'accord, je ne suis pas premier à l'école, mais je serai premier dans mon jeu. Et ils vont y arriver. Et ça va s'installer. Et évidemment, ils vont se sentir mieux avec leur jeu, puisque dans le jeu, ils vont être beaucoup plus gratifiés, valorisés. On va leur dire qu'ils sont les meilleurs, etc. À l'école, c'est quand même pas si souvent que ça qu'on dit que vous êtes les meilleurs. Ça arrive beaucoup plus rarement. Et puis surtout, ce qui est très rassurant dans les jeux vidéo, enfin c'est ce que me racontent les joueurs, hein. Ce qu'ils trouvent très très rassurant dans les jeux vidéo, c'est que c'est garanti. C'est-à-dire que si je fais un effort dans mon jeu vidéo comme on me l'a demandé, je vais être récompensé. C'est sûr. Alors que dans la vie réelle, IRL comme ils disent, in real life, dans la vraie vie, ça c'est moins sûr, hein. J'ai beau essayer de travailler en maths, etc. Si la prof m'a dans le pif, j'aurai jamais le meilleur résultat. Et c'est vrai. C'est les relations humaines. Alors le jeu, souvent, il est vécu comme quelque chose de beaucoup plus rassurant, un environnement, en tous les cas, beaucoup plus rassurant que la vie réelle, physique et matérielle. Et c'est pour ça que certains préfèrent s'y réfugier. Et c'est pour ça que c'est vécu, du moins pendant un moment, pendant la période de lune de miel, c'est pour ça que c'est vécu comme un moment positif, et c'est pour ça que ce comportement peut s'installer dans la durée. Dans la durée, parce que bien sûr, ce qui fait qu'on va devenir addict, c'est le temps. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai fumé des joints pendant 3 ans que je suis forcément un accro au cannabis. Ça marche pas comme ça. Généralement, on a plutôt les personnes qui sont réellement dépendantes pathologiques du cannabis, elles ont 5, 6, 7, 10 ans de carrière. C'est le temps aussi, depuis qu'on pratique, enfin le temps passé avec cette pratique qui va aussi déterminer l'intensité, hein, de l'addiction. C'est pour ça que on a tout intérêt à se mobiliser tôt et jeune pour essayer de faire en sorte de se sortir d'une addiction. Parce que des gens qui ont quasiment 35 ans, 40 ans de carrière à marmottant, on en a. Des gens qui sont entrés à 20 ans, 25 ans comme toxicomanes et qui sont encore avec nous à 65 ans, il y en a. Ça peut être toute une vie. C'est sûr. Mais plus on prend tôt en charge le problème, et plus c'est facile de s'en sortir. C'est sûr que quand ça fait trop longtemps qu'on est enquisté, enfoncé dans un problème, c'est plus difficile d'en sortir. Alors ça, c'était une autre question aussi que je voulais partager avec vous. Est-ce que ça existe vraiment, l'addiction aux jeux vidéo? Non, oui, non. Juste pour vous faire un petit point là-dessus assez rapide, mais il y a un véritable débat passionné entre les experts. Moi, de mon point de vue, qui est un point de vue de psychologue clinicienne, comme on dit, c'est-à-dire de quelqu'un qui travaille au contact de personnes qui ont des problèmes, de mon point de vue, l'addiction aux jeux vidéo existe. Et on peut penser, par exemple, que l'addiction, vous le savez, on est à un moment particulier dans l'histoire puisqu'on est en train de vivre une révolution. Peut-être vous le savez pas. Mais en fait, on est en train de vivre une révolution qui s'appelle la révolution cybernétique. C'est-à-dire la révolution d'Internet. Et cette révolution, elle est quasiment à l'égal de l'invention de l'imprimerie. Et ça, par contre, vous l'avez appris certainement en histoire, mais l'imprimerie, ça a changé le monde. À partir du moment où chacun a pu lire soi-même dans les livres un certain nombre de savoirs, que ces savoirs n'étaient plus déformés par des gens qui souhaitaient avoir du pouvoir, ben, la face du monde a changé. Et on peut penser que Internet va changer aussi la face du monde. Donc on est dans un moment bien particulier, dans un moment de révolution, de grand changement, et certainement qu'on n'a pas suffisamment de recul pour savoir si c'est... Peut-être que dans 30 ans, tout le monde passera sa vie devant un écran. Peut-être que dans 30 ans, on sera tous comme les joueurs de jeux vidéo, avec un casque sur les oreilles, avec un micro, et on ne se parlera plus que comme ça. Peut-être que ça sera ça la norme, on n'en sait rien. On n'a certainement pas encore assez de recul pour pouvoir savoir si on est... Est-ce qu'on est en train d'inventer une maladie? Ou est-ce que c'est réellement une vraie pathologie? Voilà, ça, on ne sait pas encore. Et puis, surtout aussi, sur cette question de l'existence de l'addiction aux jeux vidéo, c'est que, de mon point de vue, une fois de plus, il me semble qu'il existe fort peu de situations d'addiction. Il n'y en a pas tant que ça, surtout par rapport au battage médiatique. Hein, la télévision, notamment, ils adorent parler de l'addiction aux jeux vidéo. C'est peut-être une manière aussi de stigmatiser les jeux vidéo, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ne regardent plus la télévision. Et la télévision, elle perd des parts de marché, elle perd des temps de cerveau libres et disponibles pour vous inciter à consommer. Et donc, elle aurait plutôt, elle, tendance, la télévision, à diaboliser les jeux vidéo. Bon, alors voilà. Donc, peu de situations d'addiction, mais beaucoup de situations d'abus. Je crois que les adultes, là, sont dépassés. La plupart des parents que je reçois dans notre consultation, ils se sentent totalement dépassés par ces nouveaux médias. Et les jeunes, ils en profitent un peu. Un tout petit peu, pour certains d'entre eux. Mais en tous les cas, ce que ça mérite surtout, selon moi, c'est essayer de se réguler, essayer de faire en sorte que Internet ne devienne pas le centre de votre vie et le seul moyen de communiquer. C'était une de mes conclusions. Se décoller de l'écran, de temps en temps, c'est pas mal. Mais je parle là autant pour les jeunes que pour les adultes, hein, parce que je crois que nous aussi, adultes, on s'est pas rendu compte à quel point on s'était collé à l'écran. Se décoller de l'écran pour critiquer. Et puis voilà, donc 3-4 recommandations en tous les cas. Ne pas hésiter à demander de l'aide quand on a une question, soit par rapport à une substance psychoactive, soit une drogue, soit par rapport à l'alcool, soit par rapport au tabac, même si on a juste une question, même si on n'est pas dépendant. On peut se rendre dans ce qu'on appelle les consultations jeunes consommateurs. Il y en a partout en France, il y en a certainement dans votre région, je suis sûre et certaine. On peut trouver ces consultations, elles sont gratuites, anonymes et volontaires, c'est-à-dire on ne viendra pas vous chercher chez vous, vous vous y rendez. Et si vous avez des questions à poser autant sur des substances que sur des comportements, il ne faut pas hésiter, il y a des professionnels qui sont là pour vous recevoir, Car l'addiction, c'est une pathologie extrêmement lourde, mais si on demande de l'aide, on peut s'en sortir. Voilà ce que je voulais vous dire, et maintenant c'est à vous de me poser les questions.